Boker Tov, il y a une bracha parmi les 18 brachot de Birkut HaShachar, des brachot qu'on fait le matin, qui s'appelle Pokar Evrim, que Dieu rend la vue aux aveugles. C'est-à-dire que quand on est endormi, on a les yeux fermés, on voit rien du tout, le matin, Baruch HaShem, on se lève et on voit. Est-ce qu'un aveugle fait cette bracha, oui ou non? Discussion, machloket, divergence d'opinion, il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Ceux qui disent que non, c'est évident, parce que comment un aveugle peut dire... Tu me rends la vue alors que tu ne me rends pas la vue. Ceux qui disent que oui, ils disent que deux sortes de raisons. Une, que, comme on a déjà dit cela une fois passée, que ces brachot n'ont pas été institués de façon privée, mais sur Minago Shelolam, c'est-à-dire pour, sur la coutume de ce qui se passe dans le monde. Dans le monde, les gens, d'habitude, le matin se lèvent et Dieu leur rend la vue. Donc on fait une bracha pour le monde entier, pas pour la personne au niveau privé. Première raison qui est évoquée. Deuxième, c'est Rabbeinu Ari, la Kabbalah, qui dit que toutes ces brachot-là ne parlent pas de choses physiques, d'un aveugle, d'un coq, d'un courbé. On parle tout de notions mystiques. Dans cette mesure, un aveugle aussi peut et doit faire cette bracha. Comment on prend au niveau de Halakha? Le Ben Ishraï, qui est un rav qui tranche beaucoup d'après Rabbeinu Ari, d'après la Kabbalah, vous savez qu'il y a une loi dans la Torah orale qui dit que chaque fois qu'on a un doute à propos d'une bracha, on ne fait pas la bracha. Pourquoi? Parce que si on dit une bracha en vain, on transgresse le troisième des 10 commandements. C'est extrêmement grave. Le Talmud dit que lorsque Dieu a dit le troisième des 10 commandements, la terre entière a tremblé. D'accord? C'est extrêmement grave de prononcer le nom de Dieu en vain. Si on prononce, on dit Hachem, Hachem, ou même en français, quelqu'un dit D, d'accord? Il ne faut pas dire le nom, je ne vais pas dire maintenant, d'accord? D, comme ça pour rien. Ça aurait un interdit qui est des Rabbanan, qui est moins grave en hébreu et encore moins grave en français. Bon, là, c'est quand même interdit, on n'a pas le droit de dire comme ça le nom de Dieu pour rien. D'accord? Par contre, si on fait une bracha bénédiction en vain, c'est beaucoup plus grave. Là, on transgresse déjà un interdit de la Torah, le troisième des 10 commandements. C'est pour cela, et qu'étant donné que toutes les brachot sont des brachot des Rabbanan, sont des brachot qui ont été institués par les sages d'Israël, on ne va pas risquer de transgresser un interdit des 10 commandements pour faire une mitzvah qui n'a été qu'instituée par les sages d'Israël. Donc dans tous les cas, on a un doute si on fait une bracha. Même si 999 décisionnaires diront qu'on fait la bracha, et un dira qu'on ne fait pas la bracha, un grand décisionnaire, on ne fera pas la bracha. Parce qu'il y a un doute à ce propos. À part Birkat Hamazon. Birkat Hamazon, quand on est rassasié, c'est une bracha qui est de la Torah. Comme ça, écrit le Rambam, Maïmonide. Il y a un doute sur d'autres brachot, sur Birkot HaTorah, sur Mein Shalosh, elles sont aussi des Rabbanan ou d'Oraita. Mais tout le monde est d'accord, en tout cas, que Birkat Hamazon, quand on est rassasié, si on n'est pas rassasié, il y a une mitzvah sur Birkat Hamazon aussi. Dès que quelqu'un a mangé kazait de pain, donc le volume d'un cube de 3,1 cm de pain en 4 minutes ou plus, ou en 4 minutes ou moins, pardon, alors il a l'obligation de faire Birkat Hamazon, même s'il n'est pas rassasié. S'il est rassasié, et qu'il a mangé cette quantité de pain au moins, alors la mitzvah, elle est de la Torah. Et là, même s'il a un doute, est-ce que j'ai fait Birkat Hamazon ou pas? C'est un long repas, voilà, il a bu un peu, Shabbat, il est fatigué, il ne sait plus, il a fait Birkat Hamazon ou pas, il a un doute. S'il est rassasié, il doit faire Birkat Hamazon, même qu'il se peut que peut-être qu'il a déjà fait. Parce que vu que c'est une mitzvah de la Torah, dans ce cas-là, on ne dira pas que c'est si grave d'avoir transgressé l'interdit, parce que c'est aussi très grave de ne pas faire la mitzvah de Birkat Hamazon. Mais dans les Birkat HaShachar dont nous parlons, qui sont des brachot, qui sont des rabbanan, chaque fois qu'il y a un doute si on doit faire la bracha ou pas, quelqu'un il s'est endormi, ça arrive dans Birkat HaShachar, quelqu'un est un peu, le matin il se lève, il est un peu chaos comme ça, il ne sait plus où il en est, d'accord? Alors le Ben Ishraï il écrit ici qu'il n'a pas le droit de refaire la bracha, à propos de laquelle il a un doute. Qu'une bracha qu'il est certain qu'il n'a pas dite, c'est là qu'il pourra la dire. Et c'est à propos de laquelle il a un doute, il ne pourra pas la dire. Maintenant on revient à notre question sur la bracha pour Kar Ivrim qui ramène la vue aux aveugles. Alors, étant donné qu'il y a des décisionnaires qui disent qu'on fait la bracha, dites d'autres qu'on ne fait pas, alors il y aura des décisionnaires comme Avodah Yosef qui dira qu'on ne fait pas la bracha. Mais le Ben Ishraï dit on fait la bracha. Comment ça se fait? Tu as des rabbinim qui disent que non. Et nous on sait très bien qu'on a, comme je viens d'expliquer maintenant, une loi générale dans la Torah, ça fait que brachot laquelle, en cas de doute dans une bracha, on ne fait pas la bracha. Il dit, cette loi, que chaque fois qu'on a un doute dans une bracha, on ne la fait pas, elle est valable dans tous les cas, sauf quand c'est Rabbeinu Ari qui a dit qu'il faut faire la bracha. Vu que Rabbeinu Ari, il a reçu des lois à Navi, et donc ça descend tout droit du ciel, Quand lui dit de faire une bracha, alors on ne discute pas là-dessus, on fait la bracha. Même si 1000 décisionnaires, dit le Ben Yishraï, même si 1000 décisionnaires diront qu'on ne fait pas la bracha, et Rabbeinu Ari dit qu'on l'a fait, on l'a fait. Ça, c'est la façon de trancher du Ben Yishraï qui est très très Kabbalah. D'autres poskim comme Rabbi Yosef lui disent non, avec tout l'honneur au Rabbeinu Ari, mais bon, il est comme un posek, il est comme un grand décisionnaire, d'accord. Mais ce n'est pas que tout le monde est effacé devant lui parce que Yohan Navi lui a parlé et lui a dévoilé tout cela. Il faut savoir que, d'après beaucoup de poskim comme Rabbi Yosef et beaucoup de décisionnaires, il y a un principe que la Torah ne descend pas du ciel. Elle était donnée du ciel il y a 3500 ans, mais depuis elle est sur terre. Ça veut dire qu'elle est dans les mains des Chachamim. Vous connaissez l'histoire qu'il y a eu dans le Talmud entre c'était Rabbi Yeshua et Rabban Gamliel. Rabban Gamliel et Rabbi Yeshua, oui. C'est à propos d'un un four qui est en poterie. À l'époque, les fours étaient faits en poterie et étaient impurifiés. Qu'est-ce qu'on fait pour purifier un ustensile qui est en poterie? Il n'y a rien à faire, on doit le casser. Les ustensiles qui sont en autres matériaux, en pierre, en fer, en verre, on les trempe au mikvé, d'accord? Mais ce qui est fait en poterie, en terre, il n'y a rien à faire, il faut le casser. Kli cheres, ishaber, comme c'est marqué dans la Torah, on le cassera. Maintenant, on s'est posé la question. Les gens, c'est dommage pour eux de casser un four comme ça, en petits morceaux. On va le couper en lamelles, en fil de lamelles. Tac, on coupe en plusieurs lamelles. Après, on prend du ciment, hop, on le recolle, on le refait. Est-ce qu'on considère que, vu qu'il a été cassé maintenant, la touma, elle est partie, et il est pur? Ou on va dire, quand il était en lamelle, il est pur, parce qu'il n'y a plus ici de four, mais quand on le reconstruit, la touma revient, l'impureté revient. Marloket entre Rabbi Yoshua et Rabban Gamliel. Un dit, il est pur, l'autre dit, il est impur. Ok, chacun amène des preuves, chacun, hein, et chacun reste sur sa position. C'était Rabbi Eliezer, excusez-moi, c'était Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer a dit, si j'ai raison, que ce carubier se déracine et hop, marche maintenant 400 mètres, aille s'enraciner là-bas. Le carubier entend ça, il se lève, hop, il prend son pantalon comme ça, il va 400 mètres, tac, il s'enracine là-bas. Rabbi Yoshua lui dit, mon cher ami, on n'amène pas dans la Torah, on n'amène pas des preuves des carubiers. Tu vas amener une preuve comme il faut, pas une preuve de carubier. Rabbi Eliezer dit, si j'ai raison, que cette rivière maintenant qui est en train de descendre de la montagne, qu'elle s'arrête et commence à remonter dans le sens inverse. La rivière s'arrête, commence à monter dans le sens inverse. Rabbi Yoshua a dit, mon cher ami, on n'amène pas des preuves des rivières. T'amènes une preuve, amène une preuve, pas des rivières. Rabbi Eliezer dit, si j'ai raison, que les murs du Beit HaMidrash commencent à tomber. Comme ça, tout à l'heure, on se met à trembler et les murs se mettent à tomber comme ça. Rabbi Yoshua dit, ne vous occupez pas, ne vous mêlez pas de ce que vous ne regardez pas. C'est une affaire maintenant entre les sages d'Israël, vous n'allez pas vous mêler. Qu'on fait les murs, remonter, ça aurait été un manque de kavod pour Rabbi Eliezer qui a dit de descendre. Tomber, c'est un manque de kavod de Rabbi Yoshua qui leur a dit de rester sur place. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont restés penchés. La Gemara dit jusqu'aujourd'hui, les murs du Beit HaMidrash sont penchés à cause de cette affaire-là. Pour finir, Rabbi Eliezer dit, si j'ai raison, qu'une voix sorte du ciel et dit, Rabbi Eliezer a raison. Une voix sort du ciel et dit, Rabbi Eliezer a raison. Rabbi Yoshua a dit, on ne tranche pas la halakha d'après des voix qui tombent du ciel. Et pour finir, c'est Rabbi Yoshua qui a eu raison, et la halakha a été tranchée comme Rabbi Yoshua. Et Rabbi Eliezer, il a été mis en idouille, il a été excommunié. Parce que la majorité des sages d'Israël étaient d'accord avec Rabbi Yoshua, et il y a une loi qui dit dans la Torah qu'on va d'après la majorité. Donc la minorité doit s'incliner face à la majorité. Il n'a pas voulu Rabbi Eliezer, alors ils l'ont excommunié, et quand il est décédé, ils ont mis une pierre sur son cercueil. Donc, Rabbi Eliezer, c'est qui? C'est le premier rabbin du Talmud. Après Rabbi Eliezer Agadol, le grand Rabbi Eliezer. Sur aucun autre rabbin, on dit Rabbi Eliezer, on dit Agadol, on dit grand. Et la Kabbalah dit que c'était un Gilgul de Moshe Rabbeinu. C'est pas un petit. Mais néanmoins, la force des sages disent, on va d'après la majorité, point, barre. Même si ça mène maintenant une preuve du ciel. Donc c'est l'argument que dira Rabbi Yosef. Ok, Rabbeinu Ari, ça vient du ciel, c'est Yohan Navi qui est venu, qui t'a enseigné tout cela. C'est vrai, toute la Kabbalah, le problème est de Yohan Navi qui a enseigné Rabbeinu Ari. Mais quand ça vient dans la halakha, maintenant, nous, on reste d'après nos lois. Ben Yishraï dit non. L'histoire de Rabbi Eliezer ben Yehoshua, c'est une certaine histoire, mais là, c'est Rabbi Noiri, la Kabbalah. Alors, discussion, quelles sont les deux façons de trancher entre la façon plus Kabbalah et la façon un peu moins Kabbalah. Et il faut savoir aussi qu'il y a un shoot, c'est un réponse à un livre de questions-réponses qui a été écrit au Moyen-Âge, qui s'appelle Shoot Min HaShamayim, réponse du ciel. C'est un très grand rabbin, un très grand kabbaliste, qui, chaque fois en dormant, allait monter dans les yeshivot du ciel et poser des questions là-bas, et il recevait les réponses dans le ciel. Il faut savoir que dans le ciel, qu'est-ce qu'on fait après 120 ans sur Terre? On va faire quoi? On va aller à la plage? Dans la Maba, on va manger des fruits? On va faire quoi? On étudie la Torah, d'accord? C'est tout ce qu'il y a. C'est ça le grand kiff qu'il y a, le paradis extraordinaire dont on parle. C'est ça, rien que ça. Bon, c'est extraordinaire. C'est connaître Hachem. C'est tous les plaisirs du monde qui sont réunis là-dedans. Et il y a différentes yeshivot dans le ciel. Pardon? Non, pas encore Yeshua de Yosef. Je vous souhaite pas d'ailleurs. Yeshua de grand rabbin. Yeshiva de Rabbi Shimon Bar Yochai, Yeshiva de Rabbeinu Ari, Yeshiva de Moshe Rabbeinu. T'as des yeshivot. On dit, c'est vrai que le Rabbi Chaim de Volozhin dit sur son maître, le Gaon de Vilna, le Rabbi Yo de Vilna, il vivait il y a 250 ans environ, qui était un génie, d'accord? Extraordinaire en Torah, extraordinaire. Il dormait une demi-heure après étudier pendant 5h30. Après dormir une demi-heure, après étudier pendant 5h30. De nouveau une demi-heure, 5h30, comme ça. Il dormait 2h en tout par 24 heures, et c'est pareil en 4 fois. Et pendant cette demi-heure qu'il dormait, ses lèvres parlaient Torah. Et Rabbi Chaim de Volozhin, donc son élève, a dit, il a témoigné qu'il partait, dans ce moment-là, son âme partait dans les yeshivot d'en haut, étudier la Torah là-haut. Étudier la Torah dans les yeshivot d'en haut. Ça arrive des choses par une fois, mon chavruta, il était en train de vérifier un truc en halakha comme ça, et il pense dans le rêve, il pense comme ça. Donc il rêve la chute qui lui dit, va voir dans le livre là-bas, à cette référence, là-bas tu auras la réponse à ta question que tu pourrais. Maintenant il s'est levé, il va dans le livre, où la référence, tac, c'était marqué là-bas. Donc ça arrive que en rêve, beaucoup de choses peuvent arriver. Alors un rabbin au Moyen-Âge a écrit, c'est un rabbin français d'ailleurs, il écrit « Shoot min hashamayim ». C'est des questions-réponses du ciel. On aurait pu croire que tout ce qu'il pose comme question là-bas, c'est super solide. Tous les autres rabbanim, le Rambam, le Rif, le Roche, le Ramban, d'accord, tout cela, on les met de côté. Lui, il descend du ciel. Pas du tout. C'est un Rishon, c'est un décisionnaire. Bon, il est parmi des centaines d'autres, on le prend en considération, mais pas plus. C'est pas un des grands. Bien qu'on aurait pu dire, mais lui, regarde, ça vient du ciel. Lo bashamayim hi. La Torah n'est pas dans le ciel, elle est ici sur terre. Depuis que Dieu l'a donnée aux hommes, elle est aux hommes. D'ailleurs, lorsqu'il y a eu ce grand débat entre Rabbi Yehoshua et Rabbi Eliezer, la Gemara pose la question, mais dans le ciel, qu'est-ce que Dieu il a dit? Dieu, après tout, il gère. Donc, c'est lui qui a dit au carubier de se lever, il a dit à la rivière de remonter, au mur de tomber, à la voix du ciel de descendre. Et Rabbi Yehoshua, il dit non. Tu dis non à Dieu, je veux dire, t'es un peu insolent. On demande à la Gemara comment Dieu a réagi. Dieu, il a souri, il a dit, Nitzroni banai, Nitzroni, mes enfants m'ont vaincu, ils m'ont vaincu. Il était content. Ça veut dire que c'est vrai, j'ai donné la Torah aux enfants, mes enfants, aux sages d'Israël, et c'est eux maintenant les dépositaires de la Torah, et c'est eux qui fixent. Et quand ils fixent, c'est comme ça que c'est fixé aussi dans le ciel. C'est pas le ciel qui va dire à la terre comment fixer, c'est la terre qui va dire au ciel comment fixer. Donc, résumons ça maintenant, la halakha. Alors, il y en a qui vont choisir plus la voie de Rabbi Yosef, qui est plus la prédestination simple. Et comme j'ai expliqué, pas la Kabbalah. Il y en a qui, non, qui sont plus au niveau, ils sont plus attirés par ce qui est un peu kabbalistique, un peu mystique comme ça. C'est le monde Sfarad, c'est le monde oriental, Ben Ishraï qui vient de Bagdad avec son tabouche sur la tête, etc. Et il n'y a pas de problème, c'est une voie tout à fait légitime aussi. Alors, Bezon Abba Shaoul, lui, il était un peu la voie médiane qui a entre la voie de Yosef et la Kabbalah. C'est-à-dire qu'il écrit dans son livre, Bezon Abba Shaoul, que le Ben Ishraï, il va trancher même d'après des déductions faites sur les paroles de Rabbi Noari. Dans la Kabbalah, des fois, ce n'est pas marqué clairement, mais tu peux déduire de ça comme ça, tu peux arriver à une conclusion. Il dit, en tant que déduction, ça ne prend pas en considération. Mais ce qui est marqué noir sur blanc, pour nous, ça, c'est l'un de Rabbi Noari, donc c'est super fortiche, et on ne touche pas à ça. Alors, on va dire non, Kabbalah, c'est bon, c'est bien, on respecte, mais pas plus qu'un autre des grands décisionnaires. Donc là aussi, chacun décidera s'il est aveugle, grâce à Shalom, s'il fera la bracha, comme dit la Kabbalah, avec le nom de Dieu. Sinon, comme les rabbanim qui disent de ne pas faire la bracha vu qu'il y a un doute, il la fera en ne prononçant pas le nom de Dieu, dira Baruch, il pensera à Ata Hashem el Kohen Melech Haolam et dira enfin Poker Evrim. Baruch, pardon.
Dans quel cas?
quelqu'un qui est aveugle, ce qui fait la bracha de Poker Ibrahim.
Mais dans quel cas il fait Barour ?
Dans le cas où il est aveugle, ouais. Et il veut faire maintenant la bracha de Poker Ibrahim, et que lui maintenant il ne veut pas trancher comme Ben Yishraï Kabbalah, il veut trancher comme Rav Yosef et les autres qui sont non Kabbalah,
absolument.
Alors il dira Barour, et pensera Ata Hashem Nekolam Melecha Olam, et dira Poker Ibrahim.
Il ne peut pas la faire quand même clairement.
Je vais expliquer. Il peut la faire clairement comme le Ben Yishraï. Mais d'après le Rav Yosef, tu rentres dans un doute, peut-être de faire une bracha le Batala. Tu prononces le nom de Dieu, en vain.
Le Rav Yosef, il a dit oui pour les aveugles.
Il a dit c'est un doute.
C'est ce qu'il a dit.
Non, j'ai dit c'est un doute. C'est un doute.
Ah,
le Ben Yishraï. Le Ben Yishraï, il dit qu'il faut oui faire la bracha.
D'accord. Ah oui, c'est...
Voilà. C'est... Maintenant, d'après le Rav Yosef, c'est un doute. Donc si tu... dis cette bracha, peut-être que tu dis une bracha en vain. Maintenant, comment on peut parler à cela ? Il y a une discussion entre les décisionnaires aussi. Est-ce que hirhur kedibur dami ? Est-ce qu'une pensée est valable comme une parole ? Quelqu'un, il pense la prière. Il pense une bracha. C'est valable, oui ou non ? C'est un doute. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Alors, c'est clair qu'on ne va pas dire à quelqu'un « Fais ta prière en pensant ». Dans les cas où on a un doute si on doit faire, si on peut faire la bracha en prononçant, par exemple, dans un cas maintenant, si on a un aveugle, est-ce qu'il peut faire maintenant le Poker Ibrahim ou pas ? Il y a un doute. Alors, penser le nom de Dieu en vain, il n'y a aucun problème. On peut penser le nom de Dieu tant qu'on veut. Yud-ke-bav-ke, tant que tu veux, enfin, en français, en anglais, comme tu veux. Pense le nom de Dieu, il n'y a aucun problème. Au contraire, c'est extrêmement bien. Ça sanctifie la personne de voir le nom de Dieu, de penser au nom de Dieu. Ça sanctifie beaucoup la personne. Prononcer, on n'a pas le droit. Alors, vu qu'on peut penser, mais qu'on n'a pas le droit de prononcer en vain, qu'est-ce qu'on va faire dans les doutes ? On a un doute, dans les cas où on a un doute à propos d'une bracha. On dira Baruch. On pensera Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. Et d'après les décisionnaires qui disent que la pensée est valable comme une parole, j'ai fait la bracha. Donc, ce n'est pas que je n'ai pas fait du tout la bracha. J'ai fait, d'après un avis, je fais la bracha. Après, je continuerai à haute voix, Poker Ibrahim. Comme ça, de tous les avis, prononcer le nom de Dieu en vain, je n'ai pas prononcé, parce que je n'ai rien prononcé, j'ai dit qu'en penser. Et d'après un certain avis qui dit la pensée valable comme une parole, alors j'ai fait la bracha. Donc c'est la meilleure chose à faire, chaque fois qu'on a un doute. Le mieux, c'est d'être rendu quitte par quelqu'un d'autre, parce que là, on est rendu quitte à 100%. Donc un aveugle, s'il peut être rendu quitte par quelqu'un d'autre qui dira la bracha à sa place, à côté de lui, c'est extrêmement bien. Pas à sa place, il dira pensant le rendre quitte. D'accord ? Ça, c'est le top. S'il n'a pas le choix, il est tout seul dans le désert, alors il fera comme j'ai dit, en pensant les noms, Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. Il dira Baruch, après il se tait et il pense Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. Après, il redit de nouveau Poker Ibrahim. Donc on entend que Baruch, Poker Ibrahim. Il aura pensé Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam.
Au final, la pensée, c'est valable aussi quand même.
La valable, est-ce que la pensée est valable ? C'est une discussion, c'est pas clair.
Ça veut dire, par exemple, quelqu'un, je sais que quand je m'étais fait opérer dans le CES, je pouvais pas faire la mida, je pouvais pas faire.
Voilà, quelqu'un qui peut pas, on dira, ok, fais au moins en pensée. Si quelqu'un, maintenant, voilà, il a un doute, on va dire comme ça, il a un doute, il a fait, je sais pas pour une raison, il a fait maintenant, il a pris une pomme, il a pensé la bracha. Baruch ata Hashem, kolom echalam, boré priyaetz. On lui dit, mon cher ami, il ne faut pas penser, il faut dire. Il ne peut pas la dire. Parce que maintenant, peut-être d'après un avis, il est déjà rendu quitte. Ce qu'il peut faire, c'est parler d'autre chose. Ah oui, non, je ne savais pas, quelle heure est-il, comment va la politique israélienne. Hop, il a parlé d'autre chose. La bracha qu'il a faite n'est pas une bracha en vain, vu qu'il n'a pas prononcé. Et là, il fera la bracha comme il faut bien. Mais il faut faire attention que, d'après certains avis, donc, la pensée est valable comme une parole. Mais c'est clair que c'est dans le cas où on n'a pas le choix. Si quelqu'un a le choix, on ne va pas lui dire maintenant, fais ta prière. Il y a des gens, hélas, surtout dans les écoles juives, d'accord, ils sont un peu paresseux de prononcer avec les lèvres. Ils font toute la prière en pensée. Ce n'est pas valable. Il faut leur dire, ce n'est vraiment pas bien. Baruch Adonai, Elohim HaMenu V'Amen.